En habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, votre émission En habit vert sur Canal Academy a le privilège d'accueillir pour vous aujourd'hui Marianne Bastide-Bruguière. Madame Bastide-Bruguière, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été élue le 12 novembre 2001 dans la section Morale et Sociologie de l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil laissé vacant par le décès de René Pomeau. Quelques mots sur votre prédécesseur ?
C'était un très grand spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle. Il a consacré sa vie à l'étude de Voltaire et a contribué de façon remarquable à notre connaissance de Voltaire en renouvelant cette connaissance par la collection des manuscrits et l'étude de ces manuscrits. Et c'était un esprit très libre qui a rassemblé autour de lui un grand nombre d'étudiants qui sont aujourd'hui tous des spécialistes éminents de son même domaine d'études et l'ont poussé encore plus loin.
Merci. Marianne Bastide-Bruguière, vous êtes normalienne, agrégée d'histoire et de géographie, doctoresse lettres. Vous avez étudié le chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes et c'est à l'Université de Pékin où vous avez enseigné pendant une année de 64 à 65 que vous avez entrepris une thèse sur la réforme de l'enseignement et l'instauration d'un système scolaire moderne à la fin de l'Empire et au début de la République. De retour en France, vous entrez au CNRS où vous occupez successivement les fonctions d'attaché de recherche, de maître de recherche et de directeur de recherche depuis 1981. De 88 à 1993, pendant 5 années, vous assurez la direction de l'école normale supérieure comme directeur adjoint et puis vous reprenez vos fonctions de directeur de recherche au CNRS. Alors là, c'était dans la section 33, formation du monde moderne rattachée au centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. Parallèlement à tous ces travaux de recherche, vous assurez des enseignements pendant 8 ans à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et ensuite pendant plus de 25 ans à l'Université de Paris 7 et à l'École des hautes études en sciences sociales. Fin connaisseur de la Chine moderne et contemporaine, Marianne Bastide-Bruguière, vous collaborez avec d'éminents sinologues du monde entier, notamment dans les universités d'Harvard, de Tokyo, de Kyoto, au Japon. Vous avez été également chargée, sous l'égide de la Fondation européenne de la science, de la réalisation d'un programme européen de recherche sur l'État en Chine. De très nombreux articles et contributions à des ouvrages collectifs vous ont valu une renommée internationale dans le monde de la sinologie et de l'histoire de la Chine moderne, notamment grâce à des traductions, des publications en chinois, en anglais, en allemand, en japonais, en coréen, en italien, en espagnol. Alors, Marianne Bastide-Bruguière, je crois que vous préparez actuellement d'autres recueils d'articles. Qui vont paraître quand ?
Qui doivent paraître, j'espère, l'année prochaine. L'un portera sur la Chine et l'Europe française au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et un autre portera sur les transformations de la Chine à la fin de l'Empire et en particulier sur l'introduction des sciences et des techniques en Chine et la transformation de l'appareil d'État en Chine.
En votre qualité de chercheuse, pourquoi vous êtes-vous justement orientée et concentrée, comme vous continuez de le faire, puisque vous venez de nous citer tous ces ouvrages à paraître, depuis toutes ces années de travail, pourquoi vous êtes-vous orientée et concentrée donc sur la Chine ?
Très jeune, à l'âge de 9-10 ans, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire. C'était vraiment ma passion. Et puis, par une chance, parce que ma mère avait un étudiant chinois qui préparait une thèse sur la guerre de Corée, je dois dire, j'ai, par cet étudiant, su comment fonctionnait l'écriture chinoise. Et cela m'a tellement passionnée que j'ai décidé, et tout ce qu'il a raconté, il m'a raconté sur la Chine, m'a tellement passionnée que j'ai décidé à cet âge-là, j'avais 11 ans, plus tard, de m'intéresser à la Chine. En réalité, je ne l'ai pas fait tout de suite, puisque après mes études secondaires, j'ai fait les classes préparatoires, je suis entrée à l'école normale et il n'y avait pas de chinois à cette époque-là, dans l'enseignement secondaire ni dans les classes préparatoires. Mais dès que je suis entrée à l'école normale, en même temps que l'histoire, j'ai commencé à apprendre le chinois à l'école des langues orientales. Et ensuite, j'ai fait mes travaux de recherche sur l'histoire de la Chine moderne et contemporaine.
C'était voilà. Donc une vocation de jeunesse.
Oui, c'est une vocation de jeunesse.
Et qu'est-ce qui vous a passionné dans cette langue chinoise ?
C'est qu'elle fonctionnait tout à fait différemment des langues que je connaissais, qui étaient uniquement des langues européennes. Et que cela paraissait extraordinairement intelligent et mystérieux, évidemment. Et quand on est enfant, on adore le mystère. Donc j'avais envie de percer le mystère. Voilà.
Vous êtes née en France ?
Tout à fait, oui. Je suis née à Lyon. C'est vrai que Lyon a été longtemps une ville où il y avait beaucoup de Chinois, il y en a toujours beaucoup, et Lyon a toujours eu beaucoup de rapports avec la Chine, mais je ne pense pas que mon lieu de naissance ait le moindre rapport avec ma vocation.
Quels souvenirs gardez-vous de ces années d'apprentissage ? Quelles ont été les rencontres qui ont favorisé vos choix et vos décisions de parcours ?
Le souvenir que j'en garde quand j'ai commencé à apprendre le chinois à l'école des langues orientales, c'est que la pédagogie était vraiment très insuffisante. Et qu'on se donnait beaucoup de peine, mais on arrivait difficilement à des résultats importants. Quand je suis allée ensuite en Chine, les Chinois à cette époque-là, enfin les autorités chinoises, ne souhaitaient pas du tout que les étrangers apprennent le chinois. Parce qu'il régnait une méfiance terrible, et on pensait qu'un étranger sachant le chinois risquait d'être un espion, de savoir d'apprendre des choses qu'il ne devait pas apprendre. Donc la pédagogie aussi était très très mauvaise et très rudimentaire. Donc là aussi, j'avais l'impression qu'on piétinait terriblement. Et en fait, ce sont des camarades français qui m'ont aidé à apprendre, et puis quand même des professeurs chinois qui se sont intéressés à mes recherches et qui m'ont aidé autant qu'ils le pouvaient à essayer de m'améliorer. Mais pendant longtemps, je parlais très 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 mal, je parle toujours beaucoup moins bien que mes étudiants. Et c'est au Japon où, comme il y avait des étudiants chinois qui étudiaient là, et que notre langue commune c'était le chinois, alors là j'ai été obligée de parler davantage et c'est devenu mieux. Mais aujourd'hui, les étudiants français qui commencent le chinois peuvent arriver à un niveau de langue bien supérieur à ce qu'on pouvait atteindre à cette époque-là.
La langue est un véhicule. Ce véhicule vous a permis de découvrir, d'explorer une culture, une civilisation différente de la vôtre. Alors justement, comment vous êtes-vous senti au sein de cette civilisation, de cette culture que vous découvriez ?
Ce que je prenais pour des vérités pouvait être toujours mis en question. Et je me souviens, une des premières découvertes de ce genre, quand j'enseignais le français à l'université de Pékin, c'est que j'avais précisément expliqué le mot « vérité » à mes étudiants. Comme c'était des étudiants de première année de français, c'était assez difficile. Donc j'ai cherché des phrases simples qui énonçaient des faits évidents, reconnus par tout le monde. Et je leur ai dit « le printemps commence le 21 mars ». Ils m'ont dit « non madame, ça dépend des années ». Alors j'étais interloquée. Et ils m'ont dit, mais bien sûr, d'après le calendrier lunaire, la date du début du printemps varie. Et là, je me suis dit, évidemment, ils ont raison, c'est moi qui ai tort. Et ensuite, je me suis rendu compte que tout ce qui était les vérités reçues pouvait être mis en question, et pour des raisons assez louables, assez raisonnables aussi. Ça vous permet de mettre en question votre propre apprentissage et d'être ouvert, d'être plus tolérant à beaucoup de choses, et aussi de découvrir des sources de création qu'on ignorait jusqu'à présent.
Le fait d'avoir été élu en 2001 à l'Académie des sciences morales et politiques a-t-il contribué à une mise en place différente de vivre votre métier, votre façon de vous impliquer dans toutes ces recherches ?
Oui et non. C'est-à-dire que cela m'a ajouté des activités que je n'avais pas auparavant, donc je peux dire que ça m'a pris une partie de mon temps. Mais cette partie de mon temps, je me réjouis parce qu'elle me permet d'être au courant de beaucoup de choses en dehors de mon domaine et donc de mettre mon domaine en relation, en comparaison avec d'autres. C'est une préoccupation que j'avais toujours eue, mais j'y suppléais plus ou moins bien, tandis que maintenant, j'ai autour de moi, comme confrère, des hommes et des femmes extrêmement savants dans toutes sortes de domaines. Donc je peux avoir le meilleur de la connaissance rapidement. Et c'est vraiment pour moi une très très grande aide. Je suis très très reconnaissante à l'Académie.
Dans toutes vos investigations, travaillez-vous seul ou en équipe ?
Oh, en équipe. J'ai toujours travaillé avec des collègues, en équipe informelle. Bien sûr, j'ai une équipe formelle parce que l'administration du CNRS, depuis déjà 20 ans, oblige ces chercheurs à être dans des équipes formelles, à rendre compte de leurs activités régulièrement. Ça, c'est toujours été le cas d'ailleurs. Mais à être sous la tutelle d'un directeur de laboratoire, et par exemple, si je vais en mission à l'étranger, je demande la permission. Je dois toujours demander la permission, par écrit. Mais dans ces équipes formelles, on n'a pas toujours, parce qu'il y a, enfin, au moins dans mon domaine, des gens qui font des choses extrêmement différentes. Donc, on n'a pas toujours la possibilité de collaborer parce que les domaines de recherche sont vraiment trop différents. Donc, mes collaborations ont été davantage avec des collègues à l'étranger et sur une base assez informelle. Certaines fois, comme par exemple dans des projets européens, et là, quelque chose de nouveau que je dois lancer avec des collègues de différents pays européens, il y a une sorte d'organisation, mais très légère, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas qu'on puisse vivre comme un moine reclus et écrire dans son coin. Et il faut communiquer, éprouver ses idées avec les idées des autres, et aussi enseigner. Et l'enseignement, pour moi, est une chose essentielle pour le chercheur, parce qu'il éprouve aussi ses idées, il éprouve la cohérence de ses idées, et les étudiants, par leurs questions pertinentes, très souvent vous rendent le plus grand service. Ils vous obligent à chercher plus loin, ils vous obligent à clarifier une idée qui vous paraissait évidente et claire, et qui, lorsque vous la formulez, en réalité ne l'est pas aussi profondément que vous le croyez. Donc je pense que l'échange est essentiel dans la recherche.
Vous avez mené par exemple toute une enquête sur l'illettrisme en Chine. Comment décidez-vous des thématiques de ces enquêtes ?
Souvent c'est une idée en lisant ce qui paraît en Chine, les sujets dont les Chinois parlent, en voyant les documents qui sont disponibles. Parce que si vous n'avez aucune source, même si le sujet est très intéressant, vous ne pouvez rien dire. Donc c'est un mélange. La question de l'illettrisme, je me suis toujours intéressée à la diffusion de l'enseignement en Chine et à la manière dont les Chinois avaient peu à peu vaincu l'illettrisme ou au moins répandu l'instruction à travers une très vaste population avec des problèmes énormes. Et le résidu de l'illettrisme, je voulais le regarder de plus près et en particulier aujourd'hui parce que l'émigration rurale vers les villes fait qu'une grande partie de la population, c'est quand même 150 millions de gens qui sont et qui ont été transférés de la campagne à la ville. Ces gens, à cause du système d'éducation en Chine qui fait que vous avez le droit d'aller à l'école de l'endroit où vous êtes né, cette immigration faisait que les enfants de la campagne arrivant en ville ne pouvaient pas être inscrits dans les écoles de la ville, ou bien ils ne pouvaient l'être qu'en payant beaucoup plus cher que les enfants de la ville. Donc, comme ce sont des gens pauvres, beaucoup n'avaient pas d'instruction. Ils se sont donc organisés entre eux pour créer des écoles pour leurs enfants. Mais les autorités ont trouvé que ces écoles n'étaient pas régulières, que les conditions étaient précaires. Ils ont fermé certaines écoles. Le résultat, c'est que les enfants, il y avait encore plus d'illettrés. Donc, cette question-là, je voulais l'approfondir parce qu'il y avait toutes sortes de jugements ou de reportages partiels. Donc, j'ai essayé d'aller plus au fond des choses et d'examiner, je ne vais pas arriver à clarifier tout, mais d'examiner plus à fond la question, de voir exactement ce qui se faisait, où on en était, quelles étaient les mesures qui étaient prises par les autorités en différents endroits. Et la situation est très différente selon les endroits. La réaction des autorités urbaines est tout à fait différente. À Pékin, ils ont mis très très longtemps à faire quelque chose parce qu'ils ne voulaient pas de ces immigrants. Tandis qu'au contraire, il y a des régions, comme des villes comme Wuhan, où les autorités ont agi autant qu'elles pouvaient, assez vite. Et puis, selon que ce sont des petites villes ou des grandes villes, c'est différent. Donc, voilà. Et comme ce sont des questions qui se posent à l'échelle mondiale, je pensais que être plus informé sur ce qui était fait en Chine et les termes dans lesquels les problèmes se posaient étaient utiles.
Est-ce que d'autres scientifiques, à l'énoncé de votre enquête, se sont mis en relation avec vous à l'échelon européen pour dialoguer, pour enrichir leurs propres connaissances et aller plus loin dans cette enquête ?
Oui, j'ai présenté les résultats de mes recherches au congrès de l'Association européenne d'études chinoises. Nous avons une association européenne d'études chinoises qui comprend la Russie aussi. Et j'ai fait ça déjà il y a plusieurs années. Et à ce moment-là, il y avait eu un écho assez important. Et les travaux que j'ai faits ont été publiés notamment à Berlin. Et certains travaux que j'avais rédigés sont passés sur l'Internet. Et j'ai eu des courriers d'Australie, des États-Unis, etc., me demandant des choses supplémentaires. Et en Chine même, c'est un problème qui préoccupe beaucoup les universitaires et les autorités. Et j'ai été en contact avec beaucoup de gens sur ces questions-là.
Justement, quels sont les enjeux de ce métier en ce 21e siècle? Quelle est votre philosophie par rapport à cette belle aventure qu'est ce travail de recherche?
Les travaux que j'ai faits consistaient essentiellement à examiner les documents, les sources, pour arriver à établir ce qui s'était réellement passé. Et cette information, qui quelquefois est un peu rebutante, parce que c'est un peu trop savant pour le public ordinaire, je pensais qu'elle pouvait être utilisée par des gens qui vulgarisaient, mais qu'au moins ils vulgariseraient sur des faits réels assurés. Et donc j'ai vu mon métier, surtout, comme quelqu'un qui pouvait lire les sources, et non seulement les sources du XXe siècle qui sont relativement faciles à comprendre, mais les sources du XIXe siècle qui sont dans une langue beaucoup plus difficile. Et qu'au fond je traduisais, je mettais en forme, je donnais une interprétation que les gens peuvent critiquer ou ne pas accepter, mais je faisais passer une information sûre, et ensuite elle pouvait être diffusée, utilisée. Mais je n'ai pas su faire à la fois le grand écart, c'est-à-dire aller des sources les plus érudites et de la recherche la plus bénédictine, à la télévision. Bon, je le fais en Chine, parce qu'en Chine, chaque fois que je viens en Chine, régulièrement, je suis interviewée à la télévision. Et l'été dernier, par exemple, dans les grandes chaleurs, j'ai eu trois équipes de télévision chinoises de Hong Kong, de toutes sortes d'endroits, qui sont venues m'interroger sur ma vision de certains aspects de l'histoire de la Chine. En France, non, ça a été, pour ainsi dire, jamais. Mais, c'est d'autres collègues qui le font.
Mais écoutez, nous souhaitons que cela puisse changer à l'avenir, car vous nous parliez tout à l'heure de votre désir de transmission des connaissances. Et personnellement, pour préparer cette émission, j'ai lu, et c'est vraiment peu de le dire, j'ai carrément dévoré les pages de réhabilitation que vous avez écrites et que vous consacrez à un certain Polonais devenu français, le comte Michel Alexandre Kleszkowski. Mais j'ai lu ces pages comme j'aurais lu les pages d'un magnifique roman. Ce personnage est absolument formidable et vous nous faites revivre les aventures par lesquelles il a dû passer. Michel Alexandre Kleszkowski est une sorte de pionnier par rapport à l'apprentissage de la langue chinoise telle que vous l'avez vécu vous-même. Il est passé par les mêmes difficultés par lesquelles vous êtes passé et il a vécu ce travail remarquable de linguiste, d'interprète, de diplomate, avec une infatigable activité, un dévouement de service, un étendu de connaissances qu'il a mis au profit des relations franco-chinoises. Alors, parlez-nous du pourquoi de votre souhait de réhabilitation de Michel Alexandre Kleszkowski.
Mais écoutez, ça part de la chose suivante. J'ai un collègue polonais que je connais depuis 30 ans ou 40 ans, pour lequel ses étudiants organisaient une sorte de jubilé avec un volume de mélange. Donc, les étudiants et jeunes professeurs de l'Université de Varsovie et de Cracovie m'ont envoyé un courrier électronique en me disant « Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour le professeur Slavinsky ?» Alors, je dis « Bien sûr. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que je peux donner pour les mélanges Slavinsky ?» Et depuis assez longtemps, je m'étais intéressée à ce Kleszkowski, qui est un jeune Polonais qui a été embauché par Louis-Philippe pour accompagner comme traducteur-interprète le premier ministre de France en Chine en 1846, et sur lequel il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, voilà, un Polonais, j'avais vu un article écrit par un collègue qui concernait son manuel de chinois, et qui attirait l'attention sur la pédagogie particulière de Kleszkowski sur la langue chinoise. Et je me suis dit, au fond, je vais faire quelque chose sur Kleszkowski. Et donc, je suis allée aux archives des affaires étrangères, j'ai lu toutes sortes de choses sur Kleszkowski, j'ai fouillé les bibliothèques, et j'ai reconstitué la vie de Kleszkowski, qui est une vie très amusante, parce que ce malheureux Polonais avait quitté la Pologne comme réfugié politique, sans un sou vaillant, bien entendu. C'était réfugié en France, il était citoyen polonais, il n'avait pas de la nationalité française.
Oui, vous nous dites qu'on parle beaucoup de Chopin, mais Kleszkowski...
Il y avait une large émigration polonaise, c'est l'émigration de 1840, c'est avant 1848 même qu'il est arrivé. Il est arrivé en 1842, je crois. Et il avait 20 ans, Il a cherché à gagner sa vie. Il était extraordinairement doué pour les langues, comme le sont beaucoup de Polonais. Il savait déjà le russe, l'allemand, l'anglais. Et à ce moment-là, on avait commencé un enseignement du chinois en France. Et il s'est mis au chinois en se disant « il faut apprendre quelque chose de nouveau ». Et puis, par des Français qui avaient pitié des émigrés polonais, et il était quand même noble, il était comte, donc il pouvait fréquenter la bonne société. Il a été présenté à Drouin de Lhuis, qui à ce moment-là était le ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe. Et Drouin de Lhuis cherchait des gens à envoyer en Chine, parce qu'on venait de passer un traité avec les Chinois, et donc on devait envoyer une représentation diplomatique, non pas à Pékin, parce qu'on n'avait pas le droit à ce moment-là, mais à Canton, et en fait à Macao. Et il avait eu beaucoup de peine à trouver un diplomate qui accepte d'aller là-bas parce que c'était vraiment pas très désirable. Et encore plus de peine à trouver quelqu'un qui puisse lui servir d'interprète. Et apprenant donc dans un dîner en ville, probablement que Kleshkovsky commence à apprendre le chinois, il lui dit « c'est très bien jeune homme, continuez et certainement je pourrais vous envoyer en Chine ». Et effectivement, 6 mois plus tard, Kleshkovsky partait pour la Chine avec un périple effrayant parce que le canal de Suez n'existait pas. Donc, on faisait le tour de l'Afrique. Il y avait des tempêtes, des... Enfin, bref, il est arrivé à Macao.
Un personnage de roman, c'est ce que nous disions.
Et il est arrivé là-bas, il n'y avait aucun établissement, il fallait arriver à louer une maison, on louait ça aux prêtres portugais, les Anglais étaient furieux que les Français y soient, il y avait toutes sortes de complications, et puis il est resté fort longtemps en Chine, puisqu'il est resté jusqu'en 1862. Et il a été successivement à Canton, à Shanghai, et puis enfin à Pékin. Et à Pékin, pendant quelque temps, il a été chargé d'affaires de France. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été en fait le premier à venir comme diplomate à Pékin. Après la seconde guerre de l'opium en 1860, la France et l'Angleterre avaient obtenu enfin d'avoir le droit d'avoir une représentation diplomatique à Pékin. Et avant d'envoyer les ministres eux-mêmes, on a envoyé des jeunes interprètes pour préparer des logements, etc. Et c'est Kleshkovsky qui est allé pour la France. Et il a eu contact avec les plus hauts dignitaires du gouvernement chinois. Et il a eu un très bon contact, parce qu'il parlait chinois bien à ce moment-là. Il a donc pu avoir une conversation humaine et des rapports tout à fait étonnants. Et ses relations, les rapports, les dépêches qu'il envoyait au ministère des Affaires étrangères sur ses entretiens, contiennent des résumés de conversations absolument passionnants, extraordinaires.
Comme quoi l'apprentissage d'une langue peut mener à la diplomatie.
Non mais l'idée qu'on peut avoir des bons rapports avec les Chinois en parlant anglais, bon, on peut avoir des rapports avec les Chinois en parlant anglais, c'est vrai. Mais c'est beaucoup mieux de pouvoir parler chinois.
Alors ce Kleshkovsky continue sa fulgurante...
Ça a été plus ou moins fulgurant parce que le malheureux, il était parti. Il n'avait pas la nationalité française.
Il l'a obtenu un peu plus tard.
Il l'a obtenu un peu plus tard, mais au Quai d'Orsay... On l'a toujours regardé comme un étranger et il y avait toute une clique qui essayait d'empêcher son avancement. Il a été protégé par des gens qui comprenaient sa valeur et qui l'ont aidé finalement. Mais enfin bon, il est retourné en France en 1862 et ensuite il a monté un enseignement de chinois.
Révolutionnaire pour l'époque.
Révolutionnaire parce qu'il apprenait à parler chinois. Alors que les grands sinologues de l'époque apprenaient à écrire le chinois, à lire le chinois ancien, mais pas du tout à parler. Ils ne comprenaient absolument pas le chinois contemporain.
Et à prononcer, vous dites aussi à prononcer.
Oui.
Vous avez une anecdote amusante. J'admirais comment son éloquence chinoise avait pu en quelques minutes faire baisser à 10 fois moins le prix d'une théière sur un marché grâce à l'intonation.
Non mais là, ce n'est pas Kleshkovsky, c'est mon collègue Slavinsky que j'avais accompagné sur un marché aux puces à Pékin et qui voulait acheter une théière d'une certaine espèce. Enfin, il en faisait collection et tout. Et le marchand lui annonçait un prix faramineux. Et rien qu'en... Très doucement, mais en ayant la bonne intonation et en montrant qu'il connaissait parfaitement le marché des théières coquilles d'œufs, il a fait baisser le prix de 10 fois. J'ai été absolument étonnée.
Donc l'importance de l'intonation et de la prononciation cette école de Kleshkovsky. Par rapport à cette méthode pionnière, il ne se cantonne pas à l'étude de la langue. Il démythifie la difficulté de la langue chinoise. Il combat avec énergie la vision raciste et pessimiste des Chinois et de leur empire. Il nie la xénophobie qu'on prête aux Chinois. Il va se battre contre toutes sortes de clichés qui entravent les relations et le relationnel et la communication entre les peuples.
Oui, parce que il y avait à cette époque, autour de 1860, surtout après la Seconde Guerre de l'Opium, toute une quantité de préjugés par rapport à la Chine, qu'elle était endormie, qu'elle était réactionnaire, qu'elle détestait les étrangers, qu'elle les méprisait. Et il a résolument fait campagne contre cela par des articles, par des conférences, et en démontrant, en expliquant et en engageant aussi les Français à aller s'établir en Chine et à faire des affaires en Chine. Et à cette époque-là, il disait, il avait raison, vous n'avez même pas besoin d'avoir de capital. Parce qu'en réalité, il y a des capitaux en Chine. Et si vous vous entendez bien avec les marchands chinois et que vous avez leur confiance, ils sont prêts à vous donner l'argent pour lancer des affaires. Et lui-même, on lui avait proposé de faire cela. Et ensuite, il a amèrement regretté de ne pas être resté en Chine. Mais le climat était si dur et les conditions de vie si dures qu'il était vraiment malade et il avait été obligé de revenir.
Dans un instant, nous nous retrouvons en compagnie de Marianne Bastide-Bruguière.
Canal Académie.
Votre émission En habit vert sur Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Marianne Bastide-Bruguière de l'Académie des sciences morales et politiques. Marianne Bastide-Bruguière, vous avez enseigné à l'Université de Pékin de 64 à 65. Votre souvenir par rapport à cette Université de Pékin dont vous avez souligné tout l'apport positif par rapport à une réflexion telle que la science n'a pas de nationalité ni de caractéristiques nationales, elle est universelle. Le savoir scientifique d'une part et son application technique d'autre part sont indissociables et doivent être étroitement intégrés au sein d'un même programme universitaire. Autant d'idées que vous agréez.
Ce que vous venez de citer, ça vient d'une étude que j'avais faite sur le début de l'enseignement des sciences à l'Université de Pékin, parce que l'Université de Pékin a été fondée en 1898. Et on y a instauré un enseignement des sciences, et les idées qui ont présidé à cet enseignement sont tout à fait remarquables. Et j'avais donc étudié cela, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Donc cela vient de là. Mais j'ai eu la chance d'enseigner à l'Université de Pékin le français, la langue française et la littérature française contemporaine de 1964 à 1965. Et l'année suivante, de 65 à 66, j'ai bénéficié d'une bourse de recherche du gouvernement chinois qui provenait des échanges culturels franco-chinois pour continuer mes travaux de recherche d'histoire à la faculté d'histoire de l'Université de Pékin. Et depuis lors, je suis toujours restée en contact et actuellement, je suis professeur d'honneur à l'Université de Pékin et j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Université de Pékin et beaucoup de rapports avec les collègues de l'Université de Pékin dans toutes les disciplines et facultés. C'est une institution tout à fait importante dans l'histoire contemporaine de la Chine et importante dans la vie intellectuelle actuelle de la Chine. C'est une institution d'élite. Ça ressemble un peu à l'école normale supérieure chez nous, plus polytechnique, si je puis dire. Mais c'est plus vaste, puisqu'il y a quand même 25 000 étudiants.
Y a-t-il une attente spécifique de la part de tout ce monde universitaire en Chine par rapport à l'Europe et à la France?
On souhaite des échanges. Et ces échanges existent et ils se multiplient. Les désirs, les préoccupations ont évolué. Bien sûr, actuellement, le désir principal des universités chinoises, c'est d'avoir des rapports avec les Américains. Parce qu'ils considèrent que c'est en Amérique que la science est le plus avancée. Mais il y a aussi le souci d'équilibrer ces échanges et de profiter des avancées dans d'autres parties du monde. Et c'est le cas de l'Europe. Et puis, il y a des fidélités très ancienne. Dans certaines universités, à l'université de Pékin, mais aussi à l'université normale de la Chine de l'Est, à l'université de Wuhan, dans d'autres universités encore, il y a eu des rapports traditionnels avec la France. Il y a donc dans ces universités une sorte de dynastie de professeurs et d'étudiants qui ont des rapports avec la France et qui souhaitent les maintenir et qui considèrent que les rapports avec la France manifestent leur désintéressement, manifestent qu'ils ne sont pas préoccupés uniquement par l'intérêt matériel, mais qu'ils ont le souci de questions intellectuelles générales et qu'ils ont le souci de l'universel. Il faut penser dans nos rapports avec la Chine à cette sorte de mission que nous nous donnons à nous-mêmes et que nous affichons toujours la France mère des droits de l'homme, mais qui se traduit dans la conscience de beaucoup d'étrangers et auxquels nous devons répondre.
Marianne Bassid-Bruguière, vous avez présidé il y a quelques semaines, dans le cadre de la Fondation Singer-Polignac, une rencontre intitulée « La Chine dans les relations internationales aujourd'hui ». Pourriez-vous, en compte-rendu synthétique de toutes ces réflexions, ces mises en débat, nous dire quelques mots sur chacun des chapitres évoqués, tels que la population chinoise?
Les études récentes, enfin les chiffres dont on dispose, montrent un ralentissement de la croissance de cette population qui avait été très forte pendant longtemps, mais actuellement, il y a un ralentissement. Alors, certains experts pensent que le vieillissement va se produire rapidement. En réalité, tout cela est à traiter selon les lieux. Il y a des lieux où le rajeunissement continue très vite. D'autres lieux, au contraire, comme par exemple des villes comme Shanghai, où la population vieillit plus rapidement parce que il y a plus longtemps que les familles n'ont plus qu'un seul enfant et donc le renouvellement est beaucoup plus lent. Dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que la politique de la population est relativement maîtrisée, qu'il y a certainement encore des excès dans les contrôles qu'on exerce et la dureté avec laquelle ces contrôles sont exercés, à la campagne en particulier. Mais que les autorités prennent en compte les observations des experts, en particulier des experts internationaux, et qu'on arrive à quelque chose qui est relativement raisonnable.
Enchaînons sur la condition de la femme en Chine.
Alors là, la condition de la femme, j'ai plus de réserves là-dessus. Je pense que dans certains domaines, la femme chinoise a perdu du terrain et que les droits de la femme et le rôle de la femme dans la vie politique, sociale de la Chine sont moins bien assurés, peut-être, que cela n'a été le cas antérieurement. C'est un problème délicat parce que ça tient aussi au comportement des jeunes chinoises qui ne se comportent pas du tout comme leurs mères l'ont fait. Je pense que c'est peut-être une question de génération et peut-être que cela changera. Mais je ne suis pas sûre que le comportement des jeunes Chinois soit toujours si favorable à la condition féminine qu'il devrait l'être.
Une prise de conscience, peut-être, dans les années qui viennent?
Non, mais je pense que ce sont des choses qui évoluent. La position de la femme en Europe a beaucoup évolué selon les époques. Les choses vont et viennent, et peut-être qu'on en reviendra à une position qui sera plus équilibrée.
Le nombre des étudiantes par rapport au nombre d'étudiants?
Alors là, le nombre des étudiantes a certainement augmenté par rapport à ce que c'était, par exemple, quand j'étais à l'université de Pékin dans les années 1960. Le nombre des professeurs femmes à l'université a aussi plutôt augmenté.
Mais c'est ensuite, peut-être, au moment de l'entrée sur le marché du travail?
Oui, mais c'est sur le marché du travail, et en particulier le traitement qu'on donne à toutes les jeunes filles qui viennent de la campagne, qui sont beaucoup moins protégées dans les usines qu'elles n'ont été à une certaine époque.
Terminons sur la place de la France dans les relations franco-chinoises aujourd'hui.
Écoutez, beaucoup de Français qui travaillent en Chine ou qui travaillent en France et ont des rapports avec la Chine œuvrent pour que ces rapports soient bons et qu'ils soient plus efficaces. Je pense qu'à l'éducation nationale, on a à poursuivre l'effort pour l'enseignement du chinois dans les lycées et pour donner les moyens nécessaires, parce qu'il y a une demande très forte de nos jeunes pour apprendre le chinois, et c'est une bonne chose.
Et vous pensez que les décisionnaires universitaires sont à l'écoute de ces choses qui se mettent en mouvement?
La question qui se pose, c'est d'abord dans l'enseignement secondaire français. Et là, il n'y a pas de doute que l'inspection générale à l'éducation nationale en est parfaitement consciente, qu'elle fait ce qu'elle peut. Je pense qu'il y a probablement plus de moyens à mettre dans ce domaine et des moyens pour la formation aussi des professeurs de chinois pour le secondaire. À l'université, je pense que l'enseignement sur la Chine doit être intégré dans les différentes facultés ou les différentes UFR, en histoire, en géographie, en économie, etc., en droit, et qu'on ne doit pas se borner à avoir des facultés ou des UFR de chinois, mais qu'on doit mettre la Chine dans l'enseignement général. Ça commence à se faire, à mon avis, c'est pas poussé suffisamment. Il faudrait que dans les années à venir, on y pense plus sérieusement et qu'on ajoute des postes, parce que, si vous voulez, c'est très difficile d'enlever l'histoire de l'Allemagne pour mettre l'histoire de la Chine, c'est absurde. C'est absurde parce qu'on a besoin de savoir l'histoire de l'Allemagne. Donc il n'y a pas de raison.
En complémentarité, bien sûr.
Il faut ajouter des choses. Et il faut ajouter non seulement sur la Chine, mais sur l'Asie orientale. Parce qu'il faut connaître également les rapports avec le Japon, avec la Corée, avec l'Indochine, avec le Vietnam. Donc il y a un effort à faire pour introduire l'Asie orientale, mais ce serait également le vrai pour l'Asie méridionale, l'Inde aussi, dans les enseignements généraux. Et là, ça n'est pas simplement le ministère qui est en cause. Ce sont les conseils de professeurs, les conseils scientifiques des universités, et qui souvent ont une vue très très étroite. Individuellement, tout le monde est pour. Mais quand il s'agit d'attribuer un poste, alors là, c'est autre chose.
Donc, Marianne Bastide-Bruguière, beaucoup de combats, de communication en perspective pour toutes ces années qui viennent.
Oui, il y a toujours à agir et puis à former les jeunes et c'est à cela que je me suis attachée aussi.
Voilà, toutes vos communications seront les bienvenues devant les micros de Canal Académie pour cette défense de la langue du chinois, pour une meilleure connaissance d'une autre civilisation et d'un autre continent. Merci Marianne Bastide-Bruguière d'avoir participé à cette émission sur Canal Académie. Merci.
Merci.